Ézéchiel, chapitre 17, les versets 22 à 24. Ézéchiel, chapitre 17, versets 22 à 24, au nom de Jésus. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Je prendrai moi-même un jeune rameau à la cime du cèdre. Je le cueillerai à l'extrémité de ses branches. Et je le planterai sur une très haute montagne. Sur une montagne élevée d'Israël, je le planterai. Il développera des branches, produira des graines et deviendra un cèdre magnifique. Des oiseaux de toute espèce nicheront dans ses branches et trouveront un abri à leur ombre. Alors tous les arbres de la campagne sauront que je suis le Seigneur. J'abats les arbres trop élevés et je fais pousser les plus petits. Je dessèche les arbres verdoyants et je redonne de la sève aux arbres desséchés. C'est moi le Seigneur qui l'affirme et je ferai ce que je dis. Amen. Avez-vous remarqué que le livre d'Ézéchiel est un livre fort imagé? Rappelez-vous la dernière fois que j'avais prêché sur ce livre, je faisais une méditation sur les ossements desséchés. Ici aussi, c'est encore le cas, et c'est un type de texte qu'on appelle une allégorie. Et donc, avant d'entrer dans la profondeur de ce texte, il faut que nous ayons en main les outils nécessaires pour faire une interprétation d'une allégorie, ne pas prendre littéralement le texte. Ce n'est pas une histoire réelle qui a existé, mais pourtant, il parle d'une situation concrète. Et donc, il faut définir d'abord, je crois, le mot « allégorie ». L'allégorie, c'est une représentation concrète d'une idée. On veut transmettre une idée, un message, à travers une image, une représentation, pour que cette idée soit concrète. Et donc l'Éternel transmet un message à son peuple à travers une allégorie qu'il a donnée à Ézéchiel, pour faire comprendre ce qu'il a à transmettre. Voici les représentations utilisées par Ézéchiel. Branche de la cime d'un cèdre élevé. Montagne haute et sublime. Sa ramure portera du fruit et deviendra un cèdre magnifique. Tous les oiseaux de toute espèce demeureront sous lui. Alors la question qui nous traverse tout de suite l'esprit est la suivante. À qui fait-il allusion le prophète? Alors il faut connaître le contexte historique. Le prophète dénonce ici l'infidélité des dirigeants d'Israël en adoptant un comportement déplorable aux yeux de l'Éternel. Mais ce qui est magnifique dans la façon d'exprimer, le prophète le fait avec une approche très sage, très prudente. Il dénonce la faute en utilisant une allégorie. Il ne le dit pas directement, mais il utilise une allégorie pour faire comprendre ce que Dieu reproche à son peuple, et surtout à ses dirigeants. Et entre parenthèses, cette pratique, on peut le retrouver par exemple avec Nathan et David, le prophète Nathan, rappelez-vous, quand David a pris la femme d'Uri et il a tué Uri, Dieu a dit « va vers David ». Mais la façon dont Nathan a révélé les fautes de David est extraordinaire. Il lui invente une histoire dans le but de toucher la corde sensible du roi. Voici l'histoire en question. Cher roi, dans une ville, un jour vivaient deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et des bœufs. Le pauvre il n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui, auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Entre parenthèses, Nathan sait bien que c'est un ex-berger. Il sait bien le choix de chaque mot. Donc il touche le point sensible d'un berger. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux, de moutons ou de bœufs, pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Alors, il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme et il dit ceci à Nathan. « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. » Alors Nathan dit à David, « Cet homme-là, c'est toi. » Imaginez un peu le choc pour David. C'est comme on met une petite anesthésie avant que l'opération arrive, avant de crever l'abcès. Pourquoi je fais ce détour? Le but, donc, des prophètes n'est pas de dénigrer la personne, mais de pointer du doigt le mal qui abîme la personne. Tel est le rôle du prophète. Le prophète n'est pas là pour dénigrer la personne qui a commis la faute, mais pour pointer du doigt le mal qui lui abîmerait, c'est-à-dire en attaque au vrai problème et non à la personne qui a le problème. Et cette pratique des prophètes est aussi celle de Jésus que nous devrions nous en approprier dans notre accompagnement pastoral, dans notre counseling face aux personnes qui ont failli dans la vie. Parfois, nous les chrétiens, nous inversons les choses, nous attaquons la personne et nous ne touchons pas au vrai problème. Le problème est toujours là, le problème est toujours persistant, mais nous attaquons à fond la personne. Et vous croyez, « Ah, j'ai bien fait, j'ai prêché la parole !» Non, vous avez tué quelqu'un. Et le diable, lui, il est content. « Ouais, super !» Que s'est-il passé pour que le prophète parle ainsi? Le roi de Babylone, premier grand aigle, déporte Jéhoiakim, qui est annoncé comme le faible rejeton du cèdre royal, et prend tutelle la ville de Juda. Il met à sa tête Sédécias en lui faisant prêter serment au nom de l'Éternel. Mais le roi de Juda n'hésite pas à trahir ce serment. Aussi le roi de Babylone, instrument dans les mains de l'Éternel, châtie le prince et l'emmène en captivité. Il a fait un serment d'allégeance au roi Babylone suite à la recommandation de Jérémie, et pourtant derrière son dos, il préparait un coup en s'alliant avec l'Égypte. Et pourtant le prophète avait déjà dit qu'il ne faut pas s'allier avec les Égyptiens, il faut accepter d'être sous tutelle des Babyloniens. Telle était la volonté de Dieu. Mais Sédécias ne faisait qu'à sa tête. Et ce fut la cause du vrai désastre. Vous savez, Dieu aurait pu épargner le temple si Sédécias a accepté le fait qu'il soit sous tutelle. Donc ce qui est mis en lumière ici dans notre péricope, c'est l'orgueil déplacé qui l'a poussé à aller à sa propre perte. Son erreur fondamentale était son empressement à s'émanciper, à se libérer très vite de Babylone en faisant des alliances interdites contre l'Éternel. Donc, c'est une leçon de vie que nous pouvons prendre. L'orgueil, l'empressement de réussir le plus vite possible et brûler toutes les étapes en prenant des soi-disant raccourcis de la vie est un piège que le monde nous présente. Dieu n'est pas fou s'il a dit « accepte d'être sous tutelle de Babylone, même si ça fait mal. C'est par Babylone que je vais te bénir. » Et Ézéchias dit « non, je vais vers les Égyptiens. » Il y a l'exemple de la mise en garde de Paul dans 1 Timothée chapitre 6 verset 8 où il est dit « Mais les personnes qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Elles sont prises au piège par de nombreux désirs insensés et dangereux qui plongent les autres dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et ils se sont infligés bien des tourments. » Autre exemple, pourquoi l'Éternel a permis que son peuple ait pris le détour pour aller vers la terre promise? Vous savez que pour quitter l'Égypte et aller vers la terre promise, il y avait un raccourci. Mais Dieu a dit « faites un détour ». Est-ce qu'il ne connaît pas le chemin? Est-ce qu'il est fou pour permettre à son peuple d'errer dans le désert? Non. L'empressement n'a jamais été bénéfique pour l'être humain. Quand on est trop pressé, on abîme beaucoup de choses. Au lieu de prendre un chemin plus court, Dieu a dit « prenez ce chemin ». Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il est dit « après ces difficultés, après t'avoir fait souffrir de la faim, il t'a donné la manne, une nourriture inconnue de toi et de tes pères. De cette manière, il t'a montré que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, en lisant le verset 24 ici, est-ce que cette partie ne vous fait-elle pas penser à une phrase similaire? Je vais vous relire le verset 24. « Alors tous les arbres de la campagne sauront que le Seigneur, sauront que je suis le Seigneur, pardon, j'abats les arbres trop élevés et je fais pousser les plus petits, je dessèche les arbres verdoyants et je redonne de la sève aux arbres desséchés. C'est moi le Seigneur qui l'affirme et je ferai ce que je dis. » Ça me fait penser à une phrase similaire dans le Nouveau Testament, la parabole de la graine de moutarde, justement, on vient de la lire. Elle est la plus petite des graines à semer, et je pense même que Jésus a repris ce texte dans Ézéchiel. Donc ce n'est pas Jésus qui a inventé cette phrase, c'est une reprise et une relecture qu'il a fait du texte d'Ézéchiel. Elle est la plus petite des graines à semer, mais une fois à terre, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères et donne des branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous ombre. Ce qui m'a épaté dans cette parabole, c'est le détail que met Jésus dans cette histoire. Il tombe par terre, il commence à pousser, il prend des branches, il commence à bourgeonner, il donne des fruits. Pourquoi tout ça? C'est surtout là qui est la clé d'interprétation. Ce processus est utile, nécessaire et obligatoire. Vous savez, Dieu, il est éternel. Dieu, il vit à jamais et pourtant il accepte le processus du temps. Et toi, qui n'es que limité, pourquoi tu n'acceptes pas le temps que Dieu impose? Pourquoi tu es trop pressé dans la vie? Où veux-tu aller si vite que ça? Dieu dit, cette image qui est donnée dans cette allégorie est magnifique. Il dit, prends tout le temps et apprends à chaque étape de la vie ce que Dieu a à te dire. On est toujours focalisé sur la réponse à notre prière. Mais vous savez, Dieu veut nous donner, en plus de cette réponse à notre prière, des réponses de prière dans chaque situation. Oui, je vais te donner cela, mais avant que tu y arrives, j'aimerais te faire connaître autre chose. Et si tu n'étais pas attentif dans ces étapes que Dieu t'a fait avancer dans la vie, tu es un grand perdant. Oui, tu peux dire « Alléluia, j'ai reçu la réponse à ma prière », mais tu as tout lâché ce que Dieu voulait te donner en plus. Or, il y a des bonus qu'il voulait te donner. Mais tu l'as ignoré parce que tu étais tellement braqué sur ton objectif. Réussir. Mais tout le monde a cet objectif-là. Les païens, les non-croyants. Mais qu'est-ce qui nous différencie du monde ? C'est apprendre les leçons de Dieu dans la vie. Alors, que faut-il retenir dans cette parabole, ainsi que notre péricope qui parle de la même chose ? Ne cherchons pas notre salut ailleurs, ou la solution à nos problèmes chez des hommes ou d'autres forces qui sembleraient prétendre régler nos tracas. La solution ou la force de Dieu s'accomplit dans cette situation compliquée. Donc, quand tu pries, ne cherche pas des choses compliquées. La réponse, elle est là. Sous ton nez. Dans cette petite graine de moutarde, toute l'énergie du ciel est là. Il faut faire attention, ne pas regarder l'apparence. Mais c'est juste une petite graine, c'est rien du tout. Oui, mais tu vas voir qu'est-ce que ça va donner demain. Et tu vas te dire, mais ma vie, elle est signifiante, elle est rien, elle ne vaut rien. Oui, mais tu verras ce que je vais en faire demain. Il ne dit pas ce que tu vas en faire, ce que moi, le Seigneur, va en faire ça demain. Et tu seras étonné du résultat. Notre pauvreté, notre petitesse nous oblige à ouvrir nos mains vers le Seigneur pour recevoir sa bonté. Vous savez, si Dieu nous a tout enlevé, c'est parce qu'il veut nous donner des choses. C'est un peu comme un bébé, un enfant, quand il a beaucoup de choses dans sa main et quand son père arrive, qui veut lui donner du pain, alors le père dit, enlève-moi tout ça, ce que tu as dans ta main. Va te laver les mains d'abord. Mais dit, oui, mais j'aimerais qu'à regarder même mes jouets. Ben, tu ne vas jamais avoir ton cadeau ou ton pain. Mais tant que nous croyons avoir encore quelque chose de notre ressort, nos mains ne seront pas encore ouvertes pour accueillir sa bonté. Accepte le dépouillement. Accepte la kénose. Accepte la perte que Dieu, entre guillemets, t'inflige. Parce que la gloire de Dieu commence par ça. Et ensuite, le fruit. Amen. Thank you.